Je m'appelle Francia Hack et j'habite à Saint-Ouen. J'ai fait toute ma scolarité, enfin quasiment toute ma scolarité à Saint-Ouen. Aujourd'hui, je travaille dans le développement informatique, donc dans une entreprise spécialisée dans le e-commerce, le commerce connecté. Et je fais du développement sur un langage JavaScript. C'est surtout pour la construction de sites internet, pour différents clients. Donc j'ai suivi des études scientifiques et j'ai fait une thèse de doctorat en sciences des matériaux, donc dans un laboratoire à Paris qui est l'Institut des nanosciences de Paris. Et puis parallèlement, j'ai eu l'occasion aussi d'avoir un petit peu d'expérience en médiation scientifique où j'ai pu travailler au Palais de la Découverte en tant que médiatrice scientifique. Et aussi, j'ai une expérience dans une autre association, l'association Sciences Ouvertes à Drancy. Quand j'étais plus jeune, donc moi quand j'étais au collège, lycée, j'avais plutôt des facilités. Donc très souvent, on nous met dans l'esprit, si tu as des facilités, passe un bac S, tu pourras tout faire après, etc., etc. Donc moi, sans trop savoir exactement ce que je voulais faire plus tard, j'ai quand même suivi cette voie-là en me disant que ça m'ouvre toutes les portes. Donc en fait, j'essayais de suivre le parcours qui me fermait le moins de portes, en fait. Donc c'est comme ça que j'ai obtenu mon bac S. Et puis donc à la fin du lycée, il fallait faire un choix aussi sur les études. Donc pour moi, il était évident que je voulais faire des études. Je voulais pas faire des études courtes. Pour moi, c'était des études longues, master ou doctorat. Ça, c'était évident parce que c'est un peu culturel aussi. Mes parents m'ont éduquée de cette manière-là. Parce qu'ils viennent d'un pays où tout le monde n'a pas forcément accès aux études. Et pour mes parents, les études, c'est quelque chose de super important. Et c'est pour ça que, en tant que fille d'immigrée, mes parents, ils ont eu le courage et la force de venir à l'étranger, ici en France, dans un pays totalement différent de leur pays d'origine qui est le Bangladesh, et pour nous offrir la chance à nous, leurs enfants, d'avoir une éducation et donc de faire des études. Donc moi, pour ma part, mes envies allaient dans le sens aussi de celui de mes parents, c'est-à-dire faire des études. Et pourquoi les sciences? Parce que finalement, j'avais plus de facilité dans les sciences que dans les autres domaines, que ce soit dans les lettres. Et puis, ça me plaisait plus, en fait, les sciences, le fait de rechercher, de comprendre comment fonctionne le monde. Donc, voilà. Et puis, petit à petit, je me suis aperçue, enfin, je me suis découvert des affinités plus pour la physique-chimie, plutôt maths, puis physique-chimie. Et voilà, en fait, au fil du temps, j'ai suivi ce parcours-là sans vraiment avoir une idée précise du métier que j'allais exercer plus tard. Moi, je n'ai pas ressenti de choses négatives en tant que fille parce que j'ai été dans un milieu où justement on m'encourageait beaucoup à continuer dans les études, que ce soit parce que je suis une fille ou que ce soit parce que je suis en banlieue. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. J'ai jamais, enfin, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, j'ai eu cette chance-là de ne pas ressentir d'obstacles devant moi et de me sentir capable de tout faire, entre guillemets, au même titre que n'importe quelle autre personne qui vivrait dans un autre milieu ou qui serait un garçon. Enfin voilà. Enfin, moi, j'ai eu la chance à Saint-Ouen, au lycée Blanqui, de rencontrer différentes associations qui sont intervenues au lycée Blanqui. Donc je peux citer notamment Paris Montagne. Et c'est là, en fait, avec Paris Montagne et aussi l'association Tremplin qui aide les jeunes de banlieue à justement, qui les encourage à continuer vers des études scientifiques sans avoir peur. Et en plus de ça, en tant que fille, j'ai pu bénéficier d'un prix qui s'appelle le prix de la vocation scientifique et technique des filles. Donc ça a été décerné par la préfecture de Seine-Saint-Denis. qui encourageait les jeunes filles à continuer dans des études scientifiques et techniques où il y a moins de 40% de filles. Donc moi, j'ai eu pas mal d'aide, pas mal d'encouragement dans tous ces sens. Et du coup, moi, j'ai pas rencontré d'obstacles, en fait. Au contraire, ça m'encourage encore plus de continuer vers les sciences, de faire ce que j'aimais faire, de ne pas forcément aller dans des filières où on met l'étiquette filière pour filles comme la biologie ou la chimie. Même si j'ai fait de la chimie, je suis allée vers la physique et j'ai pas eu peur. Mon sujet de thèse était assez technique. Donc, j'ai fait une thèse sur les sciences des matériaux, mais j'étais dans un laboratoire spécialisé dans les nanomatériaux. Et du coup, j'ai travaillé sur des nanoparticules sous forme de poudre. Et l'idée, c'était de caractériser ces poudres, d'en connaître les propriétés de manière générale plutôt physico-chimiques. Et donc moi, en fait, j'étudiais surtout les propriétés optiques et aussi des propriétés de surface, donc comment ça interagit avec différents gaz. Et cette information-là pouvait nous, enfin, ces observations nous donnaient des informations sur la structure de surface des nanoparticules, comment les atomes sont arrangés entre eux, et s'il y a des défauts ou pas, quel type de défauts, et comment est-ce que ça peut impacter sur les propriétés du matériau, ces défauts-là. Donc, de manière générale, les nanosciences, c'est un domaine qui est encore peu connu, qui est tout à fait récent. C'est un domaine qui est étudié seulement depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années environ. Et il y a tout un monde à explorer, parce que tous les matériaux que l'on connaît sous forme macro présentent des propriétés différentes sous forme nano. Et donc, c'est en cela, en fait, que c'est intéressant d'explorer ces nanomatériaux sous toutes ses formes pour en extirper les propriétés et pour ensuite envisager des applications plus tard. Donc moi, la thèse que j'ai faite n'avait pas forcément un but applicatif, c'était plus de la recherche fondamentale pour essayer de connaître, de caractériser un certain type de matériau et voilà, par sa structure de surface et comment ça interagit avec différents gaz.
D'accord.
Moi, très concrètement, je fabriquais mes nanoparticules dans des boîtes à gants et après, il fallait faire ce qu'on appelle un recuit, voilà, pour nettoyer les échantillons de toutes les impuretés qui peuvent s'accumuler lors de la synthèse. Et après les recuits, je faisais des mesures de spectroscopie. Donc moi, j'ai utilisé beaucoup de techniques de spectroscopie. La spectroscopie, pourquoi? Parce que ce sont des méthodes qui sont non destructives et qui donnent des informations sur la nature du matériau et sur les différentes propriétés qui m'intéressaient, les propriétés optiques notamment. La grande différence entre mon travail de thèse et avant, pendant mes études, c'est qu'il n'y a pas de solution. Quand j'étudiais les sciences, quand je faisais des exercices, des examens et tout, il y avait toujours une réponse quelque part, une solution qui existait au problème sur lequel je me concentrais, enfin, sur lequel je travaillais. Alors que quand j'étais en thèse, c'est un problème qui n'a pas de solution et c'est une solution que je devais apporter moi. Bien sûr, on ne part pas non plus de rien. Il y a tout un tas de références bibliographiques, tout un tas de chercheurs qui ont travaillé au préalable sur le sujet. Et c'est partant de toutes ces recherches que l'on monte une marche en plus, qu'on émet des théories, qu'on essaye de comprendre les résultats de nos recherches. Et effectivement, les choses ne sont pas établies complètement. La technique de synthèse, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas. Et au quotidien, il faut essayer de comprendre ce qui ne va pas pour améliorer le jour suivant la méthode de synthèse ou l'expérience à effectuer. Et donc, du coup, il faut avoir une certaine créativité, de l'imagination. En plus du savoir, donc le savoir notamment de tout ce qui a été fait avant par le passé, souvent on trouve des idées dans les articles qu'on lit, ça donne des idées et puis voilà. Il faut être curieux, ça c'est une qualité clé d'un scientifique. Il faut être curieux, puis après on parle aussi de rigueur quand on fait un travail de recherche. Parce qu'il faut suivre certaines étapes dans un certain ordre et être organisé pour essayer d'avancer. C'est vrai qu'on a souvent cette image-là du chercheur qui se trouve dans son laboratoire et tout, mais en fait, un bon chercheur, c'est un chercheur qui communique. Parce que le monde de la recherche, il est à la fois vaste, à la fois petit, en fait. Parce que la recherche, elle est internationale. Mais en même temps, ce monde-là, il est assez restreint. Et donc, moi, par exemple, le domaine dans lequel j'étais, tout le monde n'est pas spécialisé dans ce domaine-là. Il y avait certaines équipes en Espagne ou en Autriche, qui avaient travaillé dans ce domaine-là. Et donc, il faut pas hésiter à communiquer et à échanger pour, avancer. Parce que le but, c'est tout de même d'avancer avant tout. Moi, je suis passionnée par les langues étrangères. Et on dit que la langue de la recherche, c'est l'anglais, parce qu'il est évident que si on veut être en contact avec d'autres chercheurs partout dans le monde, il faut savoir communiquer dans une langue. Et d'ailleurs, la langue des articles scientifiques, c'est l'anglais. Donc ça aide pas mal, d'autant que aussi souvent dans les laboratoires, on n'est pas tous franco-français, mais il y a pas mal d'étudiants étrangers ou des chercheurs étrangers qui viennent ou... Et en fait, au final, on se retrouve dans un groupe assez international. Donc, moi, dans mon groupe, j'avais mon encadrante qui était serbo-autrichienne. Et puis, il y avait des Italiens. Il y avait une doctorante chinoise. Il y avait aussi une Indienne, une stagiaire indienne qui est venue. Enfin, et j'ai eu un professeur américain, et il y a eu des collaborations avec des Suédois, enfin vraiment de partout dans le monde. Et moi, avec mes capacités linguistiques, parce qu'en plus de l'anglais, je parlais un peu espagnol et chinois, ben, du coup, je pouvais communiquer aussi un peu avec mes camarades doctorants, donc c'était assez sympa. Et puis, avoir une certaine ouverture d'esprit quelque part, c'est super important. Parce que quand on est dans la recherche, on est amené à voyager pas mal pour des conférences, des congrès. Et à ce moment-là, ben, il faut savoir être assez ouvert. Et ça, c'est super important pour un chercheur d'être ouvert à l'étranger. Et puis l'autre qualité, l'autre expérience qui m'avait aidée aussi, c'est effectivement mon expérience au Palais de la Découverte, où j'ai appris à donner des présentations en public, parce que quand on fait de la recherche, ben, il faut savoir présenter ses résultats lors de conférences en public devant des amphis. Et donc ça m'a aidé, cette capacité que j'ai à m'exprimer devant une audience, ça m'a aidé quand même pendant ma thèse. C'est difficile pour moi d'imaginer où je serai dans 5 ans, 10 ans. J'ai pas vraiment d'idée précise parce que c'est vrai que depuis ma thèse, j'ai un petit peu changé de voie. Comme il m'a été difficile de trouver un emploi dans ce domaine-là, je voulais pas forcément continuer dans le secteur académique parce que même si j'ai bien aimé cette expérience de thèse, j'ai beaucoup appris scientifiquement, techniquement, mais aussi humainement. J'ai compris que, en fait, pour faire de la recherche, il y a quand même une chose avant tout qui est essentielle, c'est la passion. La passion des sciences, être passionné et savoir faire des concessions sur pas mal de choses et vivre pour la recherche. Et ça, malgré mon intérêt profond pour les sciences, je n'avais pas forcément cette passion-là sur... Les nanomatériaux. Et donc, du coup, je me suis dit que ben, y a un chapitre de ma vie qui s'est terminé et moi, en fait, j'aspirais à autre chose dans ma vie. Je voulais plutôt avoir une vie relativement stable, avec plutôt confortable aussi, parce que malheureusement, la science ici n'est pas, dans ce pays en tout cas, n'est pas reconnue et c'est pas très gratifiant, malheureusement. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait, un choix personnel de me diriger vers un domaine où ça recrute plus, donc qui est l'informatique. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui je me cherche encore, j'ai pas encore tout à fait trouvé ma voie. Donc du coup, je ne saurais dire où je serai demain parce que pour moi, mon aventure n'est pas terminée. Je pense que là, ce que je fais, c'est très intéressant. Je découvre ce domaine-là et je pense qu'avec l'expérience, j'aurai plus d'idées précises en tout cas sur ce que j'aimerais, ce que je n'aimerais pas et je me dirigerai voilà, vers là où j'aurais envie d'aller. J'ai fait quand même 8 années d'études scientifiques et ça donne l'impression que j'ai fait ces 8 années d'études pour rien quand finalement je ne continue pas dans la recherche. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on ne fait plus vraiment les études pour le métier à exercer plus tard. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent et qui font d'autres métiers différents de leurs études. Moi, pour ma part, j'ai fait des études scientifiques et je le regrette absolument pas parce que j'ai fait des études que j'ai aimées. Ça m'a permis en plus de partir à l'étranger. Et je suis vraiment reconnaissante envers mes parents parce que, comme je l'avais mentionné un peu plus tôt, ils sont venus en France pour nous offrir cette éducation-là. Et franchement, c'est mes parents, en premier, les premières personnes que j'ai remerciées lorsque j'ai soutenu ma thèse, c'était mes parents, parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible.